One, two, ten, shake. It's okay. That's it, man.
Provoscopie, l'émission politique de divergence aux commandes le loup et le renard, ainsi que notre bolette Loris Morin. Tout ce beau monde en compagnie d'invités qui ont un passé et comptent bien, mais vraiment bien, malgré vents et marées, avoir un avenir. En vedette américaine, Jean-Claude Guesso, qui a carrément zappé les victoires de la musique classique pour venir nous rejoindre. Salut camarade, et merci de ta venue.
Bonsoir.
Et en tête d'affiche des socialistes, plein de socialistes, on sait même plus où les mettre, le studio est comble, pour qui la démocratie est mère de toutes les vertus, tandis que Paris voudrait imposer sa république, qui a des relents de république bananière. Nous voici enfermés dans l'antre de divergence pour 90 minutes de palabres, d'échanges et de confrontations sur un thème qui met en débat intérêt général et intérêt particulier, la démocratie doit-elle primer sur la République ? Autrement dit, les votes tactiques des militants locaux doivent-ils l'emporter sur les stratégies parisiennes ? Messieurs, bien le bonsoir, salut le renard.
Bonsoir.
Salut la bolette.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Claude Guesso, notre camarade ministre.
Bonsoir.
Et puis bonsoir à toute la basse-cour socialiste qui a bien voulu répondre à notre invitation. On a Bernard Daud de Villeneuve-les-Maguelones, secrétaire de section.
Bonsoir, c'est cela même.
Qui fut candidat même au municipal.
Qui fut candidat au municipal et qui est élu au conseil municipal dans l'opposition.
Voilà. Vas-y, présente-toi aussi. Là.
Emmanuel Marguerite, donc secrétaire de section sur le CHU à Montpellier. Et j'étais candidat sur la liste d'Hélène Mandrou, mais en position non éligible.
D'accord. Et le troisième
Quelle liste aussi, je suis militant de la section du 3e canton, dont Philippe Sorel est le secrétaire de section. Et la petite anecdote, c'est que je suis conseiller régional, mais d'Aquitaine sortant.
Ah, donc on va même avoir un point de vue extérieur. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Parce que divergente, c'est divergent. Il faut que vous sachiez que par les temps qui courent, avoir la voix médiatique d'un socialiste relève du défi. Entre les élus fréchiens de Montpellier qui doivent voter le budget d'Hélène Mandrou à l'heure où je vous parle et les ténors de la Fédé qui ne pourront s'exprimer que demain, rares sont ceux qui peuvent encore donner de la voix. Espérons pour eux que cela ne durera pas, mais quoi qu'il en soit, on en a trouvé la preuve, on en a pléthore. Alors de toute façon, donc place au débat.
1, 2, 5, shake. It's okay.
C'est la révolution à provoscopie. Le mot quitte l'Uchronie pour tomber dans la banalité d'un quotidien propre à démoraliser les plus optimistes. Il tangue entre désir de démocratie et volonté républicaine, entre reconnaissance régionale et besoin de direction nationale, entre victoire d'aujourd'hui et défaite de demain. À toi le loup.
Eh bien écoutez, le Parti Socialiste, depuis ses origines jaurésiennes en 1905, a toujours voulu montrer l'exemplarité de la démocratie. Reconnaissons-lui au moins cela. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les territoires se sont si souvent marqués de la rose au poing. Villes, départements, régions sont ancrés dans cette gauche responsable, tandis que l'État est aux mains d'une droite la plupart du temps libérale. D'ailleurs, c'est au sein même du Parti Socialiste qu'est né ce concept de démocratie de proximité, expression d'un pouvoir que les citoyens seraient en mesure de se réapproprier. C'est ainsi que les militants, régulièrement, lors des échéances électorales, s'appliquent à se choisir ceux qu'ils jugent les meilleurs pour les représenter au cœur de la cité. Ainsi fut fait pour les régionales à venir. Les socialistes languedociens ont choisi à plus de deux tiers des voix la liste fraîche conduite par Didier Codorniou, au détriment de celle initiée par le cabinet noir Jean Bonnizet, conduite par Andrieux. La chose semblait claire, d'autant que ce projet de liste incluait une grande partie de la gauche plurielle qui accompagnait Fraîche depuis 2004. Des communistes, des verts, des radicaux, des chevènementistes et même une curielle de femmes. Tout était donc réuni pour la victoire. Il ne manquait que le tampon de la rue de Solferino à Paris. À demi-mot, ce fut fait lorsque Martine Aubry avouait qu'elle voterait Fraîche si elle habitait en Languedoc. Et puis, patatras. Le bel édifice s'effondre, rien ne va plus. Jacques Molina s'auto-manipule en collaborant avec l'Express. Vous connaissez la suite. Christian Assaf, le dire-cap de Mandrou, relance la machine à perdre. Voilà Hélène, candidate contre Fraîche. Et Vésiné de s'agacer tout en la soutenant du bout des lèvres. Et l'ineffable Aliès, qui croit soudain exister enfin à son âge. Et tous les rats de quitter tous les navires. On n'est pas là pour donner des noms. Enfin, quoique. C'est bon, enfin, on aura peut-être des noms tout à l'heure, un peu de patience. Bon, ça devrait venir au cours de l'émission. Voilà. Enfin, le décor est planté. On a dans nos studios le camarade ministre Jean-Claude Guessot.
Communiste. Pas le camarade simplement ministre, le camarade communiste.
Ah, parce que tu n'es pas encore mis en congé du parti ?
Non seulement je ne suis pas mis en congé, mais j'entends défendre mon point de vue en tant que communiste.
Oh, bon, ben, on va en parler. Et, puis alors, et donc, nos plus que militants, nos responsables de section au niveau socialiste, et puis même donc, quelqu'un qui est conseiller régional de la région Aquitaine, donc, qui est ami représentant, porte-parole, voix de Philippe Sorel. On verra comment on pourra le dire éventuellement. Philippe Sorel, vous savez, ce dentiste là, du côté d'Antigone, celui dont on dit que d'ici combien ? Un mois et demi, il pourrait fort bien être le nouveau maire de Montpellier. Le débat est d'autant plus ouvert qu'il pourrait s'agir d'un combat Paris-Province et que celui-ci semble aussi avoir lieu au sein du MoDem. Alors, qui, de Martine ou de Georges, de François ou de Marc, remportera la mise ? Ben, messieurs, on va vous écouter et place au débat. Mais avant, une petite musique. Vous savez, quelque chose de qui nous vient de chez Olivia Ruiz.
Oh là là, oui, ses yeux de braise et sa petite fossette au menton. Je n'endors plus, j'en deviens niaise. Oui, je fonds en pamoison, je soupire son nom.
Et elle achète des tas de revues pour y découper ses photos. Sur tout le mur, l'air détendu, on voit sourire le beau cabot.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge.
Si encore c'était Clark Gable, autant on emporterait le vent. Mais je dois me farcir sa belle gueule de Don Juan toute la journée sur mon écran.
C'est quand même mieux que ton football. Occupe-toi, lis ou bien picole.
Mais si je bois, je réponds plus de moi. Je supporte plus ménage à trois. Chaque fois que monsieur sort son chef-d'œuvre, faut que je la conduise au cinéma. Pendant qu'elle avale ses couleuvres, oh là là, moi je tourne en rond, je fais les 100 pas.
T'as qu'à m'attendre dans un bistrot.
Ah vraiment, elle me pousse au crime.
Je prendrai le dernier métro, puisque je te saoule avec mon film.
Yeah.
Georges.
Et voilà, bon, qu'est-ce qu'il a ce Georges d'Olivier Ruiz? Je crois que maintenant, depuis quelques semaines, vous commencez à, si vous écoutez Provoscopie, à savoir ce que ça signifie. C'est l'hymne régional qui remplace le Secanto, qui est donc l'hymne de Georges Frêche pour la campagne des régionales.
Bon, bah, divergent, je remarque, il y en a de tout poil. Hein.
Voilà, divergentes et divergents, vous êtes bien calés dans vos fauteuils, quelques glaçons dans vos verres respectifs, j'espère. En ce qui nous concerne, c'est le désordre total, puisqu'on a quatre invités, et là, je ne sais pas s'ils se sont transmis le mot, ils ont chacun apporté une bouteille de vin. Donc on va essayer de ne pas tout boire d'ici la fin de l'émission, parce que sinon on ne va pas être clair. Alors on vous propose un triple débat avec nos invités, le tout autour de la démocratie. Tout d'abord, si vous voulez bien, on va causer de l'embrouille médiatico-politique qui tente d'ostraciser Georges Frêche. Et puis, avec moult socialistes, il sera question de démocratie interne au sein du parti. On parlera enfin de bilan, d'actualité, aussi d'avenir. Et surtout, on finira par débattre des options qui s'ouvriront avec le second tour. Est-ce qu'il reste des alliés possibles, des alliés crédibles? Enfin, quoi qu'il en soit, de quoi occuper nos neurones pour l'heure qui vient. Alors, commençons par le débat que je vais appeler le débat embrouille. Et revenons sur l'embrouille médiatico-politique qui tente d'ostratiser Georges Frêche. Alors, Jean-Claude Guesso, ça fait fort longtemps que tu le connais, Georges Frêche.
Oui, oui.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, c'est un cas. Hein.
Bon, moi, j'ai l'impression que l'embrouille ne remonte pas à la semaine dernière. L'idée parisienne de tuer Frêche. J'ai l'impression que ça remonte déjà au congrès de Metz en 1977, lorsque Frêche s'était opposé à François Mitterrand, et qu'à partir de là, celui qui allait devenir président de la République avait Frêche dans le nez, et que de là commençait une lutte presque Paris-Province.
Je sais pas, moi, c'est aux socialistes à le dire, mais bon, toi, tu vois, vous voyez loin, là, hein, la divergence dans le passé. Ce dont je suis
ça,
sûr,
c'est mon côté historien.
Mais t'es comme Frêche. Et alors,
reste poli, hein.
C'est sûr que il s'est passé des choses à l'intérieur du Parti socialiste dans le passé. Bon, sans aller aussi loin que ce que vous dites, mais disons depuis le congrès de Rennes ou...
En 83, 83,
oui, et vous rappelez ce congrès.
Et en 84, quand Mitterrand emmène Frêche en Chine, et il emmène Frêche en Chine pour le tenser, c'est le moins qu'on puisse dire, et à l'aller et au retour. Frêche le laissait dire d'ailleurs, et il nous l'a raconté au micro, il y a quelques années de ça.
Je ne parlerai pas à la place de Georges Frêche, vous l'invitez, il vous dira tout sur François Mitterrand.
Non, mais c'est
simplement. Non,
mais il gagnait toutes les élections municipales, quand la gauche gagnait toutes les élections, il n'était jamais ministre, le garçon. Quoi.
Ouais,
alors, dans la vie, il y a des ascenseurs, hein, un coup ça monte, un coup ça descend.
Mais les ascenseurs, c'est ça. Hein,
normalement, c'est le rôle. Mais
et
c'est,
quand j'étais ministre des Transports, j'avais même les ascenseurs, moi, comme responsabilité. Alors, tu vois, d'ailleurs, j'ai découvert ça quelques mois après ma nomination.
Mais il n'a jamais été ministre.
Parce que la situation.
Là, t'as fait plus fort que lui. Là.
La situation est grave quand même, parce que
pas désespéré.
Vous avez parlé de manipulation, de magouille et tout ça. Il faut effectivement se poser la question. Attendez, on assiste à une situation qui est invraisemblable pour des observateurs aussi fins limiers que vous.
On croirait entendre Serge Florence là.
Regardez ce qui s'est passé.
Quand il veut me dire une vacherie, commence toujours par
non,
ça.
Non, je ne veux pas dire une vacherie. Regardez ce qui s'est passé ces derniers mois. Tout à coup, il y a, disons, quatre personnes de différents partis qui décident de s'unir et de dire « Nous, on part ensemble, les verts, les bleus, les rouges, les roses et contre Frêche. » Donc ça, c'est en Languedoc aussi. Et en même temps, au plan national, ils commencent à se dire, eh bien, il faut quelqu'un d'autre que Georges Frêche. Alors, donc, ça c'est il y a 8 mois de ça. 8 mois de ça que ça monte, comme ça.
Et il est vraiment français, ce garçon. Il n'a pas de mémoire.
Alors, 8 mois de ça. Non, parce que vous avez parlé que de magouille nationale.
Il oublie le reste.
Mais il
oublie qu'en 2002, si Jospin avait gagné, Frêche aurait été ministre de l'Intérieur.
Oui.
J'avais eu l'atelier à l'époque.
Non, peut-être pas ministre de l'Intérieur.
J'avais eu l'atelier à l'époque.
Peut-être
qui me l'avait confirmé. Qui me l'avait confirmé.
Peut-être
ça
pas ministre de l'Intérieur.
L'Héros du jour avait publié d'ailleurs sur cette affaire-là. Et
Moi, j'ai pas les archives.
Je ne sais pas. Non, c'était moi.
Ah non, non, communiste, on ne file jamais le ministère de l'Intérieur.
L'atelier de Jospin disait fraîche ministre, même si ça n'avait pas été de l'Intérieur, il était de l'Intérieur.
Attendez, laissez-moi achever mon raisonnement, mais je vais aller très vite. Donc, il y a eu à la fois une embrouille nationale et une embrouille régionale. Voilà la vérité. Et c'est cette conjonction qui fait qu'on s'est trouvé dans une situation totalement aberrante. Il y a un an de ça, les élus communistes nationaux faisaient leur congrès à Montpellier. Georges Frêche vient à ce congrès. Et il dit quelques mots.
Où ça, salle Pétrarque ?
Non, il est au palais, des congrès. Et il dit quelques mots. Il est applaudi par tous, y compris Marie-Georges Buffet est venue à ce congrès des élus communistes et républicains. C'était il y a un an. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a le débat au sein du Parti socialiste localement pour dire. Fraîche ou pas fraîche. Et il y a ce que vous avez dit très justement, d'ailleurs je vous félicite de rapporter les choses exactes, Codorniou qui dit « moi je suis avec fraîche » et Éric Andrieux qui dit « moi je suis quand même pour voir si on ne peut pas faire autrement ». Résultat du vote, y compris à Montpellier. Mais enfin...
Surtout même à Montpellier, quoi, oui.
Non mais je crois que sur votre antenne, vous avez parlé de plébiscite. C'est pas moi. C'est pas le communiste qui dit ça, c'est vous qui
Je confirme.
Qui le disiez. C'est pas fini.
Y compris dans la section d'Hélène Mandrou.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ralliement d'Éric Andrieux. C'est-à-dire, il y avait deux listes concernant les socialistes. Un, Codorniou, Fraîche, Éric Andrieux. Et puis, on fait une liste...
Jean-Claude, mets pas la charrue avant les bœufs.
Ils sont tous...
Avant d'en arriver là, parlons de 2006. Et parlons de justement là où ça a démarré, l'embrouille. Les Harkis. Et avec les Harkis, on l'a déjà dit 12 fois à l'antenne, et plus.
Je l'ai dit, moi, aussi.
Voilà. Bon, c'était une embrouille. Puisqu'en l'occurrence, le Harki en question qui venait de prendre sa carte à l'UMP...
C'était pas un Harki qui parlait...
Insulté Fraîche depuis 10 minutes, et sa femme, et tout. Quant à l'histoire des Blacks, et là, l'article de Marianne, qu'on peut conseiller à tous les auditeurs, le Marianne de cette semaine, où la journaliste qui a fait un dossier sur Fraîche, a fait un excellent dossier, qui est du belle objectivité, et qui dit... Si racisme il y avait, c'était du racisme anti-blanc et pas du racisme anti-noir.
N'allons pas là-dessus.
Bref, documenter. Et l'affaire ne remonte pas à la semaine dernière. Et puis, Aubry qui dit si j'étais socialiste, là c'est un lapsus, vous m'excuserez. Si j'étais landaussienne, je voterais.
Elle a dit, c'est ce que j'allais dire.
Je voterais Georges Fraîche.
Et tout à coup.
Et bien, tout d'un coup, pouf, hop,
là, oui, mais c'est
Jacques
ça.
Molina. Alors, Jacques Molina, Jean-Claude, tu le connais. Bernard, tu le connais.
Je ne vais pas attaquer un journaliste.
Vous le connaissez tous, Jacques Molina. C'est un journaliste, on va dire, chevronné, reconnu. C'est pas un gamin. Alors, c'est quoi cette embrouille ? Il s'est auto-manipulé, il s'est fait manipuler, il a manipulé. C'est pas un gamin, le garçon. Hein. Alors, en balançant cette info à l'Express, le journaliste, en plus c'est un journaliste indépendant, donc il est propriétaire de son écrit. Il aurait très bien pu refuser que ça soit publié dans ces conditions-là. Il n'est pas, je ne sais pas combien il est payé au niveau de la ligne ou autre, mais enfin, allez, ça ne représentait pas 3 millions d'euros l'affaire. Il n'est pas à quelques euros près. Donc, c'est quoi cette embrouille ? Enfin, comment vous la voyez ? Puis là, j'interroge surtout les socialistes. Comment vous la voyez ? Alors, de l'intérieur, parce que vous êtes deux de l'intérieur, Montpellier-Rhin, Villeneuve. Et puis, on va demander à celui qui est avec nous, conseiller régional de l'Aquitaine, donc Abdi El Kandoussi.
Et après, j'achèverai ma phrase. Hein.
Et de la suite dans les idées.
Comment il a vécu ça aussi de l'extérieur ? Alors, de l'intérieur d'abord, au niveau Montpellier-Villeneuve. Rapidement, hein, allez-y.
Oui, enfin, comment on l'a vécu pas très bien. Effectivement, pour faire relativement court et pas refaire toute l'histoire, la dernière manipulation est quand même extrêmement grossière et à la portée du premier journaliste stagiaire venu, fut-il encore vague-mestre, parce que, comme par hasard, on ressort des propos prononcés 6 semaines avant dans un conseil d'agglo où ceux qui aujourd'hui crient au scandale étaient dans la salle et à l'époque se sont bien gardés de la moindre remarque. Les propos ont été reportés le lendemain dans la presse locale.
Parce que Hélène Mandrou s'en rappelle même plus.
Ah, mais ça, c'est...
Elle se rappelle même plus si elle était là. Elle n'avait pas fait attention.
Enfin, ça, c'est une...
Je vais vous dire si
c'est une affaire à quoi, comment là. C'est une affaire socialo-socialiste ou socialiste-socialo, je ne sais pas.
Moi, je pense que...
Qu'est-ce qui se passe là?
Je pense que la machine est en route depuis bien longtemps et que...
C'est un peu mon propos.
Le complot, entre guillemets, est en route depuis plusieurs années, voire depuis 2003 même, pour prendre la place de Georges Frêche. Et surtout, au travers de Georges Frêche, c'est surtout la fédération de l'Hérault qui est visée avec tous les fantasmes qui vont autour. Mais là, je laisserai mon camarade Manu Marguerite en dire un peu plus.
Alors, Manu Marguerite, qui est donc est secrétaire de section au niveau du CHU Montpellier. Alors,
pour mettre peut-être.
Donc, qui est l'opposant de Manville, l'homme à Montpellier qui est pour la liberté de la presse, au point de tuer la Glorieuse. On salue nos amis Noneuf et Cuche, et on les soutient foncièrement sur ce coup-là. Et Manville, il peut nous attaquer, on n'a pas une thune, donc il n'y a pas de problème, quoi.
Alors juste, je reprends la parole.
On s'en fout, il écoute pas, de toute façon, il n'a pas d'oreille.
Non, je vais... Alors, je voudrais juste dire, reprendre simplement une chose par rapport à la cabale dont on parlait tout à l'heure, et particulièrement au Harki, puisque tu en as parlé tout à l'heure. J'étais présent, moi, le jour où Georges Frêche a parlé des Harki.
Et Jack Lang aussi.
Jack Lang était... Alors, Jack Lang, en plus, était à côté de moi. Et j'ai un souvenir très, très précis. C'était un journaliste de Libération qui était présent, dont j'ai oublié le nom. Et quand Georges Frêche a tenu le propos, Jack Lang s'est retrouvé donc face au journaliste de Libération. Et le journaliste de Libération lui a dit « Mais qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il n'a pas parlé de sous-homme et tout. » Et j'ai entendu à côté donc Jack Lang dire « Écoutez, je ne suis pas là pour faire une exégèse des propos de Georges Frêche, n'est-ce pas ?» Et tout. Et il est parti après. Donc simplement pour vous dire qu'à l'époque... j'étais donc présent lorsque ça s'est produit. Et effectivement, Georges Frêche s'était adressé à un individu ou deux en particulier qui s'étaient présentés de façon agressive face à lui.
Ah, c'est le manque au plaisir, oui.
Effectivement, le terme de sous-homme n'est pas approprié.
Qui venait d'une manifestation de l'UMP à l'UMP
qui avait lieu à l'UMP,
le Front voilà, National.
Oui. En plus. Donc, Georges Frêche en a fait une explication historique et a dit à ce moment-là à ces deux personnes qui commençaient à s'agiter, qui n'avaient pas d'honneur particulier. Il a fait un rappel historique, etc. Et puis finalement, il leur a dit « Vous n'êtes que des sous-hommes », mais en disant « Vous n'avez pas d'honneur par rapport à ça, par rapport à l'UMP qui vous sert l'aile. »
Vous voulez dire « Vous n'en avez pas ».
Vous n'en avez pas, voilà.
Et il ne parlait pas à des harkis, il parlait à des individus.
Oui, à deux individus, voilà. Donc c'est vrai que quand on a assisté à toute la scène telle que je l'ai fait moi, c'est vrai que je n'ai jamais pensé qu'à ce moment-là, Georges Frêche pouvait être raciste ou pouvait tenir des propos déplacés par rapport à une communauté. Il s'adressait bien à deux personnes.
Oui, surtout alors, quand on connaît Georges Frêche, on peut lui reprocher un milliard de choses, mais certainement pas d'être raciste. Quoi. Et encore moins aujourd'hui d'être antisémite, parce qu'à la limite, ce que lui reprochaient ses opposants lors de l'inauguration de sa campagne, c'était d'être trop pro-israélien. Donc,
il faudrait savoir.
Alors,
juste, je termine par rapport à l'Express, puisqu'on a posé la question finalement de ce qu'avait fait l'Express en sortant cet article. Bon, simplement pour la petite histoire, une semaine avant, moi j'ai reçu un coup de téléphone d'un des journalistes de l'Express, qui s'appelle Marcelo Westfred, qui est le journaliste spécialisé à l'Express pour le Parti Socialiste. Et moi, il m'a simplement posé des questions. Il ne s'est pas du tout agi de ça, de l'histoire là, du Conseil d'Aglo où Frêche aurait traité Fabius, enfin aurait dit de Fabius qu'il avait une tête pas catholique. Il était surtout très intéressé par la relation de Frêche avec Aubry par rapport à ce qui s'est passé au moment du vote, etc. C'est surtout sur ces points-là qu'il a insisté à ce moment-là. Et il m'a posé la question, effectivement, de savoir, par rapport au résultat du vote sur la ville, etc., ce que ça avait donné à l'époque, s'il n'était pas, en France à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il n'était pas question. Donc je pense qu'après, la phrase a été sortie, effectivement, du texte un peu peut-être au dernier moment, en se rendant compte qu'il pouvait y avoir une polémique autour de ses propos.
Alors, Molina, manipulé ou manipulateur ?
Ah ça, il faut lui poser de la question, ça je ne peux pas répondre à sa place.
Non mais il y a une question, je veux dire, moi je ne parle pas de Jacques Molina et tout ça, mais que,
il faut,
que
il sur ce... en parler, parce que le rôle de la presse, le rôle des médias là-dessus...
Par rapport aux médias, et ça c'est à vous que je m'adresse, à vous, à la radio...
Tiens, y en a que... trois, on est trois au garde à vous là.
Oui, non mais écoute,
on attend de pied ferme.
Non mais qu'il y ait une citation d'une phrase qui a été dite, parce qu'effectivement Georges Frêche a dit cette phrase que Laurent Fabius n'avait pas une tronche catholique. Moi on m'a dit un jour, s'il disait ça de toi, ça porterait pas à conséquence. De quoi ? Ça porterait pas à conséquence. Moi s'il dit ça de moi, mais non seulement je fais le coup de poing. Mais enfin, ça veut dire de quelqu'un que tu lui fais pas confiance, que c'est un faux jeton. Mais ça veut dire que ça. Sauf que, pour aller au bout de ma réflexion, dans l'article, il y avait un renvoi qui renvoyait à la religion. Vous comprenez ?
Oui, ça c'était dans le montage...
Oui, mais vous comprenez la problématique.
Éditorial de l'Express.
Tout le monde sait, mais dans notre région...
Bien démontré d'ailleurs pour nos auditeurs, ceux qui veulent aller sur le site internet Arrêt sur image de Schneiderman, où la démonstration est faite...
Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on peut être très vexé par une telle phrase, et ainsi de suite, mais de là à éveiller le regard sur... C'est une phrase qui touche au problème de la religion. Là, il y a un problème. Je me demande s'il n'y a pas un problème de déontologie en ce qui concerne les médias.
Oui, oui, non, mais... voire même de Molina, enfin qui
cesse manipuler là-dessus. Aussi. Tu me disais, Leloup, qu'il y avait un détournement des titres par rapport à l'article de Jacques Molina
oui,
aussi.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment une manipulation. Quoi.
Moi, j'aimerais bien entendre Abdiel Kandoussi, justement, qui vient complètement de l'extérieur. Il vient d'Aquitaine, donc il n'est pas, j'allais dire, directement concerné, quoique, enfin, il va peut-être nous dire, tu vas le contraire, mais je crois que tu ne vis pas à Bordeaux. Tu vis pas à Montpellier.
Si, attention. Je fais le grand écart entre Montpellier et Bordeaux, mais je suis Montpelliérain. Hein.
Coudert aussi est de Bordeaux. Hein.
C'est un Bordelais, ben, personne n'est parfait, c'est clair. Donc, non, je fais le grand écart, mais je suis Montpellierain depuis pas mal d'années. Voilà, je me suis retrouvé sur les listes en 2004 pour des raisons particulières, mais je suis Montpellierain, il n'y a aucun souci. Moi, je vais vous dire le problème. Le problème, c'est le coup monté du national. On a exhumé une phrase du 22 décembre pour justifier...
C'est à cause de la loi Guesso, ça.
Je ne sais pas si c'est la loi Guesso, mais ce qui est sûr, c'est que cette phrase est du 22 décembre.
Vous voulez que j'en parle ?
Attention ! Et en plus, on la présente comme la goutte d'eau. Moi, ce que je sais, c'est que Frêche a gagné tous ses procès. Donc, s'il a gagné tous ses procès, je ne vois pas pourquoi on remet en question toute la procédure interne du Parti Socialiste. Il faut savoir que nous avons voté, j'ai voté à Montpellier, absolument, puisque je suis à la troisième section de Philippe Sorel. On a voté à 70% le 3 décembre. On s'est déplacé, on a eu une convocation. On s'est déplacé, on a voté pour une liste. Et Frêche et sa liste a été validée à 70%. Je ne comprends pas pourquoi maintenant... On a une décision qui arrive du national, le national qui ne comprend pas la situation montpelliéraine et qui nous impose un choix. Mandrou ou pas Mandrou, peu importe, moi ce que je regrette, c'est la machine à perdre qui est enclenchée par le national. Il faut savoir que la liste sortante a un bilan, mais elle a également un projet. Pourquoi remettre en question cette équipe ? Ils ont travaillé pendant 6 ans, ils ont des idées, ils ont commencé à mettre en place... le programme de 2004, moi j'étais candidat en 2004, je peux vous dire qu'on ne met pas en place le programme en 6 ans. Il faut donner la chance à l'équipe sortante, il faut leur donner certainement un mandat supplémentaire pour aller au bout de leur projet, des idées mises en place en 2004. Voilà, c'est tout.
Moi j'aimerais qu'on revienne sur plusieurs choses, parce que bon, effectivement vous avez voté. et au sein des militants, je veux dire, il n'y avait pas photo, puisque c'était de l'ordre de 70%. Oui, non, on est jusqu'à 20h. Hein. Vers 19h58, je redonnerai la parole. Et bon, vous avez voté. Et puis une fois que vous avez voté, tout d'un coup, on dit, on va le faire autrement. Et bien, voilà, il y a le côté embrouille médiatico-politique de Molina, l'Express, etc. Mais il y a une autre embrouille quand même, peut-être éventuelle, celle de ce qu'on appelle le cabinet noir. Assaf, Jambon, Zanchiello, dont Andrieux faisait parti un petit peu à un moment. Est-ce que c'est pas aussi l'histoire d'une vengeance et Andrieux qui s'est radié, mais les trois autres par contre qui sont encore à fond là-dessus. Est-ce que c'est pas l'histoire d'une vengeance personnelle? Parce qu'on rappellera pour nos auditeurs que Christian Assaf était le directeur de cabinet de Fraîche à la région, Sylvain Jambon était le directeur de la communication, et quant à Alban Zanchiello, il était le chef de cabinet. Donc, et qui se sont fait virer tous les trois en 2006 pour des raisons sur lesquelles, bon, allez, on va pas épiloguer. Bref, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'une vengeance purement personnel. Alors, Jean-Claude, toi qui es oui, conseiller régional, vice-président au niveau de la région, comment tu as vécu ça quand les trois, oui. Parce que les trois, vous aviez quand même une admiration sans borne pour les trois qui vous ont fait gagner les élections en 2004 quand même. Oui, Sylvain Jambon, c'est Sylvain notamment, je me souviens, en 2003-2004, qui avait réussi à convaincre Georges Fraîche qu'il fallait qu'il mette au pédale 12, qu'il la joue soft, et il avait joué soft, et d'ailleurs, c'est ça qui avait largement permis, on avait dit, la victoire. Et d'ailleurs, il avait mis en avant Marie-Yvonne Lodin, enfin des choses comme ça. Enfin bref, bon, victoire. Et au début, ça le faisait très bien. En plus, Sylvain, c'est un copain, toi. C'est un ancien parti communiste.
C'est que des amis.
Rédacteur en chef de la Marseillaise.
Que des amis.
Bon, certes, aujourd'hui, il est au MEDEF. Bon, d'accord, mais enfin. Bon.
Attendez, copain, moi. Ce sont que des amis. Henri, Sylvain, Christian. Moi, je travaillais bien avec eux. Ceux qui ont gagné en 2004, ce sont tous ceux qui étaient avec Georges Fraîche dans la liste Union Toute et avec cette équipe qui a contribué à ce qu'on fasse la preuve, en quelque sorte, qu'il valait mieux en changer par rapport à l'équipe d'avant, et par rapport à l'équipe d'avant, où je le rappelle, Coudert était le financier de l'équipe d'avant, parce que ça, ce serait bien qu'on parle du contenu. Alors, ceci étant, oui, mille fois oui. Je pense d'ailleurs, moi, si on me pose la question, que pensez-vous de la candidature d'Hélène Mandrou? Honnêtement.
On va y venir.
C'est pour parler. Eh bien, je pense qu'elle est dépassée. Cette candidature, elle est dépassée par des problèmes à la fois de rancœur et d'ambition nationale qui la dépassent. Et on vit quelque chose en Languedoc-Roussillon qui est un peu extraterrestre. On a des phénomènes de revanche, de vengeance. Vous avez cité des noms. On ne s'en sortira pas. On ne fait pas de la politique en fonction de la rancœur ou de la vengeance. Et on ne transforme pas l'élection.
C'est un côté corse, mais enfin bon.
Oui, et on ne fait pas.
C'est ce qui fait le bonheur de faire de la politique.
Et on ne transforme pas une élection en préparation d'une autre élection. C'est quoi? À quoi on joue? On est en train de prendre en otage les habitantes et les habitants du Languedoc-Roussillon. Parce que demain, parce que j'entends même certains qui disent « Eh bien, tant pis, si c'est la droite et l'extrême droite qui reviennent, c'est pas grave. » Mais si, c'est grave.
Ils s'appellent comment, certains? Ça s'appellerait pas prof d'histoire géo à Villeneuve-les-Maguelones comment tu l'appelles, David
Non, moi je
Hermé, non
moi je rêve de
réconciliation.
Il parle de Claude Bartolone.
Je rêve de réconciliation au sein du PS. Ça m'emmerde de les voir à ce point divisés. C'est à cause de ces trucs que Coudert a été élu sénateur alors qu'il était un papouasi. Il savait même pas qu'il avait une chance d'être élu. Et à cause de ces divisions.
On le dira aux Argentins qui se font traiter de papoulets.
C'était où à la super gentil. Bon, je me suis trompé, je retire. Je m'excuse d'avoir dit une fausse information. Mais enfin, on est en train de prendre. Mais regardez ce qui se passe. Coderre, il veut remettre en cause, y compris la gratuité des livres. Il veut pas du report modal. Il veut pas d'une ligne grande vitesse où on fait passer des marchandises et des voyageurs. Regardez ce qu'il a fait dans sa ville. Il critique Fraîche parce que Fraîche a développé Montpellier. Et effectivement, il a de quoi avoir honte par rapport à ce qu'il a fait de Béziers, qui,
si
il y a 40 ans, était au même
niveau. Il a presque la larme à l'œil.
Surtout qu'il fait 40 ans après le polygone à Béziers. Non, moi, je voudrais juste revenir sur la procédure. La procédure et le vote des militants.
Alors justement, la procédure, le recours de Didier Codorniou, c'est crédible ou c'est pas crédible? Ça peut gagner, ça peut pas gagner.
Moi, c'est pas mon métier, c'est pas mon propos. Je veux dire, il y a eu une procédure qui est connue de tout le monde, qui est statutaire. Aujourd'hui, on est dans la situation, pour prendre une image, on est dans la situation où on a demandé au chauffeur du bus de passer le code. Il a passé le code, il a eu son code. Ensuite, on lui a demandé de passer l'exercice pratique de la conduite. Le 3 décembre, il a eu la conduite. L'inspecteur, le 12 décembre, a validé qu'il avait son permis de conduire. Et un mois et demi après, la direction vient dire « Ben non, c'est plus lui le chauffeur, on vous met un chauffeur, on ne sait pas s'il sait conduire, mais on vous met le chauffeur, et vous, tout ce que vous avez fait avant, c'est de lui donner l'avenue. » C'est ça le problème.
On a le camp inverse avec le permis de conduire, mais cette fois-ci pour de vrai, du fils Jean Sarkozy. Qui n'avait pas eu le permis de conduire,
alors,
et qui a fini par l'avoir en Corse.
Bon. En fin de compte, alors, mon ami, j'ai un Claude Guessot qui dit être communiste. Par rapport à son parti, est moins victime du
centralisme démocratique. J'ai l'impression que le renard, il a eu une carte de
l'UMP
les
poches
hier ou avant-hier.
Est moins victime du centralisme démocratique que le Parti Socialiste.
Et dans les statuts du PS, il y a quand même écrit démocratie militante, quand même.
C'est pas ça. Hein,
attends, le respect est quand même loin d'être appliqué.
Dites-moi, là, des trois socialistes que vous êtes, lequel pourrait nous dire, au niveau des statuts du PS, comment ça se passe? Parce que les militants, vous avez voté bon, pour la liste Codorniou, enfin c'est Air Fraîche, bon, okay. Là-dessus, il y a la direction nationale qui dit « bon non, on s'en fout, on va faire autrement ». Que disent les statuts du PS? Puisque Didier Codorniou a quand même posé un recours auprès du tribunal. Alors est-ce que ce recours, il n'a aucune chance d'aboutir? Est-ce qu'il a une chance? Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'irai un peu plus loin. Est-ce que vous servez à quelque chose, les militants, ou est-ce que vous servez à rien? Ou est-ce que vous êtes purement un prétexte?
Je crois que bon, le recours va être déposé dans les jours à venir, probablement. Je crois que c'est même plus une question juridique, c'est une question politique, quoi. C'est-à-dire, c'est de savoir, effectivement, quand il y a eu le vote des militants.
Je pense que
le débat, il se situe même plus au niveau juridique, il se situe au niveau politique.
Je suis pas sûr qu'il y ait un seul socialiste qui connaisse les statuts du PS.
Bah, il y a beaucoup d'articles, hein, ce serait compliqué de les connaître sans détail.
Vous avez parlé de démocratie. La majorité des militants socialistes ont fait un choix. Ce choix a été validé nationalement. Et la question, elle est là.
Oui, c'est ça, c'est une question.
Il faut une décision du Conseil national pour remettre en question une décision qui a été prise officiellement par le Conseil national. Donc elle n'a pas été prise actuellement. À ce jour, rien n'a été décidé par le Conseil national, donc le choix des militants du 3 décembre ne peut pas être remis en question. Ce qui veut dire que la démarche de Codorniou est complètement justifiée.
Et je crois qu'aujourd'hui...
Alors, que vaut le dernier vote 45 voix, 5 contre, 5 abstentions.
Non, c'est 40 voix le Bureau national de mardi.
40,
40 il y a eu 7 voix contre.
C'est une décision des représentants des courants du Parti Socialiste, c'est tout ou pas plus?
Bon, donc il faut le Bureau National.
Je
peux dire un truc qui va pas faire plaisir à nos amis socialistes.
Alors vas-y.
Une seconde.
Vas-y, moi je suis un homme d'union.
Jusqu'au 3 décembre,
la possibilité a été offerte à ce qu'il y ait une liste alternative qui vienne au vote des militants. Il n'y avait absolument rien qui s'opposait. D'ailleurs, il y a eu 180 candidatures de mémoire dans l'Hérault pour être sur les listes régionales. Rien ne s'opposait à ce qu'une liste constituée, ordonnée, soit soumise au vote des militants en face celle qui était proposée par la fédération menée par Georges Frêche. Ça n'a pas été fait en son temps. Donc maintenant, c'est un peu tard et c'est un peu...
Voilà, c'est une question. Alors, c'est juste une question de légitimité aujourd'hui. Et c'est vrai que pour une liste qui va se présenter, une liste estampillée Parti Socialiste qui va se présenter aujourd'hui, je trouve que c'est extrêmement difficile d'être tête de liste ou d'être candidat sur une liste pareille quand on sait que quasiment, bon, sur l'Hérault, il y a quasiment 80% des militants qui ont voté pour l'investiture de Didier Codorniou. Donc aller se présenter contre le vote des militants, je trouve que c'est extrêmement dur. Et pour la petite anecdote, j'ai eu la semaine dernière au téléphone un ancien collaborateur très proche d'Hélène Mandrou. Je dis très proche, c'est vrai, hein, très très proche. Il m'a dit...
À Divergence, on aime bien avoir des noms.
Qui est sur Paris, non?
On aime bien avoir des noms, ouais.
En tous les cas, il m'a dit, l'erreur d'Hélène aujourd'hui, c'est d'aller contre le vote des militants. Et la dernière fois qu'ils ont parlé, c'était le 2 octobre, c'était donc le lendemain du vote. Et il m'a répété, l'erreur stratégique majeure qu'elle fait sur le plan politique aujourd'hui, c'est d'aller contre ce vote massif des militants.
Et pour appuyer justement sur ce point-là, il faut savoir qu'en 2008, il y a eu exactement la même procédure pour valider la tête de liste au municipal à Montpellier, que ça a été fait en interne, comme nous l'avons fait fin 2009 pour les régionales, et que tous les militants ont respecté ce choix. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que Hélène Mandrou a été tête de liste au municipal à Montpellier.
Alors aussi, bon, Hélène Mandrou, par la voix de Martine Aubry, dit mais le clash avec Frêche, en fait, c'est parce que au niveau des valeurs, bon, ils ne respectent plus les valeurs du socialisme.
Mais 15 jours
donc,
après,
donc justement, moi, je m'interroge et je voudrais avoir votre sentiment. Donc, il semblerait que la démocratie militante ne soit pas une valeur du socialisme.
Et pourtant, c'est
alors, je voudrais avoir donc. C'est-à-dire qu'une des valeurs du socialisme de Aubry et de Mandrou est l'antidémocratie. Dans d'autres temps, on appelait ça alors, le totalitarisme, on appelait ça je ne sais comment, le centralisme démocratique.
Bon, c'est Jean-Claude.
Il n'aurait échappé à personne alors, que la démocratie participative n'était pas forcément le point fort de Martine Aubry et que c'est plutôt le point fort d'une de ses concurrentes potentielle pour 2012 et la manœuvre prépare déjà cette 2012.
Et alors, au-delà de cette querelle d'individus, Frêche, Aubry, etc., Mandrou, est-ce que vous ne voyez pas dans cette querelle une querelle typique du Paris-Province ? Paris-Province, Montpellier, ça fait 1000 ans en gros que Montpellier existe, ça fait 1000 ans que Montpellier s'oppose à la capitale, quelle que soit cette capitale. Ça fait 1000 ans que Montpellier est dissidente. Elle a été dissidente dans tous les temps, dissidente de droite, dissidente de gauche, anti-révolutionnaire à l'époque de Robespierre, donc pas forcément toujours de gauche, mais toujours dissidente vis-à-vis de Paris. Alors, comment est-ce que vous voyez cette chose ? Est-ce que tout simplement la candidature de Frêche ne serait pas qu'une candidature, je veux dire, naturelle de la dissidence languedocienne face au pouvoir parisien ?
Oui, en partie, mais je crois quand même qu'il faut arrêter de dire, particulièrement pour Georges Frêche, qu'il ne représente pas les valeurs socialistes. J'ai participé à un débat mercredi dernier dans une section de la ville de Montpellier où les échanges ont été riches, voire vifs, je dirais. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde le bilan sur la ville, le bilan sur la région, je crois qu'il n'y a pas de souci particulier à se faire par rapport à la politique de Georges Frêche. Et la politique de Georges Frêche, ça a toujours été une politique au service de la collectivité, quelle qu'elle soit. Quand on regarde, en plus, quand on vient de l'extérieur, pour ceux qui viennent de l'extérieur à Montpellier, concernant la culture, concernant les transports, on a Jean-Claude qui est là, qui pourrait nous en parler, concernant les conceptions de... Non, mais je veux dire que Montpellier, c'est une ville... C'est une ville.
Jean-Claude est girondin depuis un quart d'heure. Il a été jacobin pendant toute une vie. Quoi.
Non mais c'est une ville qui est en plein développement. Non mais où il fait bon vivre. Et je pense qu'il y a. Alors peut-être qu'il y a un peu de jalousie de la part des Parisiens. Parce qu'effectivement, Je crois qu'il n'y a pas à remettre en cause les valeurs du socialisme de Georges Frêche. Il les a toujours eues, il les conserve aujourd'hui. Et son action politique au quotidien.
Ah, il veut quand même s'aborder le PS.
Oui, mais ça, effectivement.
Il veut créer un parti démocrate. Attention, cette histoire de s'aborder le PS.
C'est Jean-Claude Guessot, c'est notre ministre communiste, qui va nous faire l'apologie d'un Frêche qui veut créer un parti démocrate. On t'écoute,
Jean-Claude. Oui, mais moi, ça m'arrange, figurez-vous. Pourquoi ? Parce que je pense que, quelque part, ça va aller vers là. Et Georges Frêche, quand il a dit « je veux s'aborder le PS », ce n'était pas pour s'aborder les idées du PS. C'était pour dire « mettons-nous à l'heure américaine ou à l'heure un parti républicain, un parti démocrate ». C'était dans le sens de la bipolarisation. Et moi, je suis contre la bipolarisation. Donc je ne suis pas en train de faire l'apologie de Georges Frêche là-dessus. Au contraire, parce que je pense qu'il faudrait créer à la gauche de ce parti socialiste qui peut se transformer en parti démocrate.
Un front de gauche, mais c'est déjà fait, ça.
Non, mais le front de gauche, malheureusement, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on en parlera si vous voulez, on peut faire une émission. Moi, je pense qu'il faudrait créer une force politique qui soit à la fois contestataire du système et constructive, c'est-à-dire capable de mettre les mains dans le cambouis, qui soit à la fois indépendante du PS, qui s'appelle comme il veut, mais unitaire, à la différence de ce qui se fait aujourd'hui et au Front de Gauche et au NPA, et qui soit populaire et moderne.
Mais pourquoi tu nous fais le portrait de Jean-Luc Mélenchon, là ?
Non, c'est le contraire. Jean-Luc Mélenchon, il est en train, non pas de faire du Link Party, il est en train de faire du Pic Party. C'est-à-dire, je te prends l'appareil...
Le Link Party, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est l'histoire entre Prussien et puis Germain.
Non, on parlera de ça.
Entre Oscar Lafontaine, un ancien du corps PD de RDA, et puis les autres de l'Allemagne ex-de l'Ouest, qui sont des ex-trotskistes du corps PD.
D'accord, mais moi...
Entre le corps PD et le KP qui font l'alliance des Ligueux, c'est le bordel. Donc, oui, ça ressemble effectivement au Front de Gauche aujourd'hui en France.
Je suis ni trotskiste, ni stalinien, et je suis pour rompre avec la matrice bolchevique. Donc vous voyez un peu, tout en étant communiste jusqu'au bout des ongles, dans ce qu'il y a de plus fort dans les valeurs, c'est-à-dire celle de l'émancipation
humaine. Je vérifie, il a les ongles rats.
Ce que je veux dire par rapport à Paris, j'étais il y a quelques jours à Paris, je suis allé voir une pièce de théâtre, La Noce de Brecht, et j'ai rencontré
dans l'école du parti, on ne t'avait pas obligé de le voir déjà, ça ?
Non.
Normalement.
Non, c'était Brecht jeune.
Normalement, Brecht, au niveau 2 de l'école, t'es obligé d'avoir lu toutes les œuvres de Brecht.
Mais relis tous tes classiques, tu verras que c'est quand il a écrit La Noce, il n'était pas communiste, Brecht. C'était avant. Tu vois, il faut tout savoir dans la vie, quand on parle et quand on fait des remarques ou des réflexions. Et alors,
One point pour Jean-Claude Guessot.
Et alors, j'ai rencontré des gens. Et j'ai rencontré des Fabusiens. Voilà. À ce théâtre, d'ailleurs c'était merveilleux parce que la salle était pleine, avec des gosses, des jeunes de toutes les couleurs, vous voyez ce que je veux dire, c'était à Bobigny. Eh bien, j'ai rencontré des Fabusiens, et les Fabusiens, je ne cite pas les noms, malgré que vous soyez très, très amoureux des noms cités. Eh bien, des Fabusiens qui me donnaient...
On aime bien de savoir qui dit quoi.
Qui me donnaient raison sur le fait que Georges Frêche n'est ni raciste ni antisémite. Qui me donnait raison sur l'idée, il faut, non, l'histoire de mieux vaut la droite pour ça jamais. Mais c'est les mêmes Fabusiens. C'est les mêmes Fabusiens que le maire de Carcassonne qui dit pareil, parce que regardez, je pense que Georges Frêche avait réussi quelque part, et nous avions réussi, les socialistes. Les communistes qui ne veulent pas se transformer qui ne veulent pas se replier, qui sont à la fois unitaires et constructifs, mais aussi les radicaux de gauche. Tout ça, on avait réussi à faire une liste, y compris que Martine Aubry avait validé, où le problème des tendances au sein du Parti Socialiste n'était pas posé. Vous vous rendez compte, on renvoyait cette question après. Et ça, c'est le mérite du président Frêche. Or, aujourd'hui, avec cette salade-là, de l'axe Martine-Laurent, qui pense à l'élection présidentielle. On est en train de nous foutre un bins, un Languedoc-Roussillon, qui risque de faire élire avec une triangulaire suicidaire, de nous faire élire quelqu'un dont personne ne voudrait pour le Languedoc-Roussillon.
Alors on va clore ce petit débat sur l'embrouille politico-médiatique, remettre un peu d'ordre dans le débat, et un peu d'ordre, il faut un petit jingle militaire là pour nous remettre de l'ordre là-dessus. Oui, messieurs, n'ayez pas de doute, on est toujours bien sur Divergence, malgré ce petit jingle. Eh bien non, on va parler de démocratie, véritablement. Bah, ça changera par les temps qui courent. Hein. Alors, moi j'aimerais bien avoir votre définition. On va commencer par nos trois amis socialistes. Comment est-ce que vous définiriez ce mot de démocratie? Ce mot si galvaudé, c'est quoi la démocratie? Puisque visiblement, il semblerait quand même qu'elle soit largement remise en cause dans votre parti. Alors, on commence par qui? Ouais, n'importe, Bernard. Allez, vas-y, Bernard. Dans Bernard, de Villeneuve-les-Maguelonnes, on salue une nanar s'il nous écoute, hein, Bernard.
Oui, tout à fait.
On salue Serge aussi.
On salue Gégé, l'ancien maire communiste de Villeneuve-les-Maguelonnes.
Ah, son fils aussi, non? Ouais, on arrête de déconner.
Je ne savais pas que j'étais venu ici pour faire une disserte de philo sur la définition de la démocratie. Je vais modestement essayer de parler de celle qu'on est en droit d'attendre au sein du Parti socialiste. Ça commence par les statuts. Les statuts, ils ont été établis, ils ont été validés démocratiquement, puisque...
Mais c'est quoi la démocratie? Le mot, ça veut dire quoi pour toi?
La démocratie...
Ou bien la Grèce.
Oui. Mais j'ai pas envie de rentrer dans de la sémantique sur la démocratie, parce que c'est
a priori, c'est quand même le pouvoir... C'est le du peuple.
C'est le pouvoir fort du peuple, oui, tout à fait. C'est
Mos Kratos.
Mais je reviens sur la démocratie au sein du Parti socialiste, parce que j'y tiens beaucoup, parce que il se trouve que dans cette cabale, il y a une chose qu'on n'a pas encore précisée, et on va donner des noms, puisque vous êtes friands de noms. C'est le secrétaire national à la rénovation, Arnaud Montebourg, qui est quand même un des principaux instigateurs de la cabale, au travers de son ami Paul Aliès. Et si...
Le coach de Hélène Mandroux.
Oui, peut-être, je ne savais pas qu'il était coach, tant pis pour elle. Et si la rénovation du PS, appelée par une majorité de militants, commence... par s'asseoir sur un vote qu'on peut qualifier de démocratique. Je rappelle, et Manu Marguerite en a été un des témoins privilégiés, qu'aux dernières élections internes, le seul département où on a eu de la surveillance parisienne sur les votes, c'est l'Hérault. Et tout le monde est reparti à Paris sans le moindre doute sur la validité des votes. Donc pour moi, la démocratie, au-delà
la démocratie surveillée. Je ne suis pas sûr que si on l'avait fouillé jusqu'au bout, il n'y aurait pas eu la même embrouille qu'il y a eu de l'autre côté, du côté de l'île. Mais enfin, bon.
Enfin,
mais c'est une bonne guerre.
Non, parce que sur les rôles, je peux vous dire, en tous les cas, je peux vous dire que sur les rôles, lors du vote du 1er décembre, il y avait quasiment dans chaque bureau de vote et devant le secrétaire de section un représentant d'une des motions qui surveillait les opérations de vote. Et nous, on a eu notre délibéré qui a été signé sans aucun problème.
D'ailleurs, vous n'avez pas remis en cause l'élection de Martine Aubry. Malgré tout ce qui a été dit sur les votes.
Oui, absolument.
Est-ce que c'est compatible, hein?
De quoi
démocratie et parti.
Dans les statuts.
Et du coup, quel est le rôle d'un parti politique dans une démocratie moderne? Un parti politique, il sert à quoi dans une démocratie moderne? Et puis les militants, ils servent à quoi dans un parti? Parce qu'a priori, là, si on regarde Martine Aubry et tout, bah, les militants, ils ne servent à rien. Puisqu'ils peuvent voter ce qu'ils veulent. De toute façon, on s'en fout.
C'est un fait de match, là. C'est un accident de parcours. Il faut savoir que, qu'on est sur une dynamique. Malgré les européennes qui nous ont fait énormément de mal, si on est dans cette situation actuellement, c'est à cause de notre piètre score aux européennes. Si on avait un PS national plus fort, on ne serait pas en train de se chamailler avec les Verts et d'autres partis.
Vous feriez l'Union.
Mais l'Union, elle existe dans l'équipe sortante. Elle existe puisque vous avez réussi à la faire en 2004 et je suis sûr, vu l'équipe qui repart, ou alors vous vous êtes trompé en 2004 et à ce moment-là il fallait tout changer, mais c'est pas ce que je pense. L'équipe qui repart, la liste qui a été présentée, c'est le résultat des négociations de 2004. Ça a fonctionné en 2004. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas aujourd'hui.
De l'union pour faire quelque chose, pour construire, hein, et pour s'intéresser d'abord aux problèmes qui sont posés à notre région, avant de s'intéresser d'abord aux problèmes qui sont posés dans nos partis.
Mais est-ce que le congrès de Reims n'y est pas pour beaucoup là-dessus ? Est-ce qu'il n'a pas été justement fort mal digéré ? Est-ce que ce n'est pas ça en fait une des clés du problème ? Parce que Georges Frêche, on peut le rappeler pour nos auditeurs, avait soutenu, Georges Frêche et Robert Navarro et les socialistes, enfin vous aviez largement soutenu Ségolène Royal. Bon, elle a perdu. On l'a vu dans quelles conditions. Ça tenait presque des élections de Bush.
Elle n'est pas la première secrétaire du Parti Socialiste, pour établir la vérité. Effectivement, le congrès de Reims, il a actuellement, on assiste au tout sauf Georges. À Reims, on a eu le tout sauf Ségolène. Et pour faire le tout sauf Georges, comme pour faire le tout sauf Ségolène, eh ben on finit par faire des mariages, même si ça doit déplaire à notre ami Roumégas, on finit par marier le lapin avec la carpe, et avec le loup et peut-être la belette. Et à la sortie...
Oui, mais
la belette conteste. Mais, et à la sortie...
Oh, la belette se marre.
À la sortie, on se retrouve avec de vrais problèmes de gouvernance, parce qu'il n'y a pas de majorité idéologique derrière tout ça.
Ben, moi, j'ai une question toute simple.
C'est pour ça, alors...
J'ai une question toute simple.
Le loup et la belette, ce sont des prédateurs.
Une question. Alors, est-ce que ce que tu viens de dire, Bernard, là, justement, c'est parce que moi, ce que je m'étonne, ce sont les voix... un peu timide du Parti Socialiste sur le scrutin uninominal que nous promet Sarkozy en 2014. Parce que jusqu'à présent, il y a une seule partie, disons, de la gauche qui s'émeut de cette réalité-là qu'on nous promet. Parce que la démocratie, est-ce que là, effectivement, elle n'est pas remise en cause ?
Alors, sur le scrutin uninominal, je vais parler à titre personnel.
C'est une garantie.
Ça vous garantit rien.
Et alors on peut traduire, c'est parce qu'à titre villeneuvien. Et
à titre de citoyen villeneuvois.
Ça aurait pu le faire.
Villeneuvois. Le scrutin uninominal à un tour, dans l'absolu, pourrait être considéré comme étant la démocratie. Bon, sous réserve que derrière, il y ait une clé de répartition proportionnelle intéressante. Mais à mon sens, dans le projet de la loi Balladur, le scrutin uninominal à un tour, il a énormément de tares. Et il a surtout pour moi une tare rédhibitoire, c'est que la parité n'existera plus. Il en sera fini de la place des femmes en politique.
Oh bah, non. Des hommes.
Il en sera fini. Non.
Dans des hommes. Et
même à partir de ce moment-là.
Problème, parce que là, il y a le problème. On va en reparler tout à l'heure avec Hélène Mandroux. Le problème d'Hélène Mandroux, c'est pas de trouver des femmes, c'est de trouver des hommes.
Et des courants dits minoritaires, mais qui ont le droit de s'exprimer dans ce pays.
Avant 2014, il y a 2012, il y a les présidentielles. On va faire ça.
Si ça se passe comme les régionales à Languedoc Roussillon.
On va faire ça par étapes.
Je ne me fais pas d'illusions. Hein.
Non, mais on va faire ça par étapes. Il y a des combats à gagner. D'abord 2010. D'abord, dans un mois et demi, il faut que les militants soient présents. Il faut que les gens aillent voter. Il faut qu'ils aillent voter pour l'équipe sortante. Ça, c'est important. Ensuite, il y aura 2012, les présidentielles. Je crois que là, les Français sont bien réveillés. Ils ont bien vu que la droite actuelle démonte et démolit tout ce qui a été mis en place pendant des années. Et certainement que Sarkozy sera sanctionné. Et puis ensuite, on verra le vote de 2014.
Alors, on va revenir sur la question de démocratie. Et Abdi, on ne t'a pas entendu là-dessus. C'est quoi ta définition de la démocratie ?
Bon, pour faire simple, c'est on part de la base, c'est-à-dire du militant que je suis tous les jours dans la cité. Donc c'est on récolte les avis des militants et ça remonte vers le secrétaire de section, puis le conseil fédéral, puis vers Martine Aubry actuellement. Oui, voilà, pour moi c'est ça.
Je savais pas que le conseil régional d'Aquitaine se trouvait dans les cités. Moi.
La cité, c'est la ville. Hein. Faire de la politique, c'est gérer les affaires de la cité. Donc je suis dans la cité. Et pour Bordeaux est à droite. La communauté urbaine de Bordeaux est à gauche. La région est à gauche. Et pas mal de députés d'Aquitaine sont à gauche également. Donc Juppé est en minorité en Aquitaine. Ne vous inquiétez pas. Et Bayrou est également aquitain, mais il a un peu de mal.
Là. Il manque de poule.
Oh là là.
Je peux donner.
Oh, le renard est en forme. Là.
Il est au four au moulin.
Je peux donner une opinion sur cette question, la démocratie.
On ne donne pas d'opinion sur divergence. On émet des avis.
Ben, c'est un avis qui est une opinion. Et alors,
tu as raison d'avoir des opinions.
Allez, Jean-Claude.
Non, parce que d'abord, concernant la remarque du renard. Sur les partis, mais alors attention, si vous savez, ton raisonnement, il peut aller loin. Dans les partis, c'est contraire à la démocratie, les syndicats, c'est contraire à la démocratie, les associations, c'est contraire à la démocratie. Dès lors que des gens s'associent, réfléchissent pour être plus forts, y compris dans leur réflexion, et pour être plus forts dans leur motivation et leur mobilisation, ce serait contraire à la démocratie. Attention au populisme qu'il y a derrière tout ça, qui risque d'être dangereux. Ceci étant, sur la démocratie, moi je considère que la démocratie, c'est bien sûr le suffrage universel. Et en l'occurrence, là, nous avons affaire à une question qui touche au suffrage universel. Je considère aussi que c'est le contre-pouvoir. Le problème avec le contre-pouvoir, c'est que son obsession, c'est d'arriver au pouvoir.
C'est qu'il est contre.
Non. C'est qu'il est contre pour y arriver. Vous comprenez ? Vous avez toujours derrière le contre-pouvoir l'obsession du pouvoir. Donc, ça ne suffit pas. Le suffrage universel.
Non, regarde sur divergence.
Et le contre-pouvoir.
Et lorsque quelqu'un veut le pouvoir, y compris pas de divergence, c'est carrément la révolution qui s'organise.
Non, mais parce que tu veux le garder, toi. Et alors.
J'ai pas le pouvoir, moi.
Si, c'est toi le patron. Et alors. Mais ça veut dire qu'il faut qu'au suffrage universel, qu'il faut au contre-pouvoir, qui sont indispensables, il faut ajouter autre chose. Il faut ajouter la dimension de l'émancipation humaine et des valeurs. Sinon,
avant, en 1960, on disait la prise de conscience du prolétariat. Je traduis pour les anciens, quoi.
Oui, mais non, mais je ne parle pas du prolétariat. Je parle de manière.
Oui, il existe.
Mais toi, tu as tendance à m'allumer chaque fois là. Et alors. Et non, mais c'est pourquoi. Je pense que aujourd'hui, ce qui est fait à Georges Frêche au point de vue médiatique et national politique, c'est-à-dire une attaque sur l'antisémitisme, alors que c'est vraiment ça, c'est absurde,
c'est du n'importe quoi,
c'est mensonger.
Je crois que tous les auditeurs en sont tout à fait conscients.
On est monté une opération là-dessus, alors que si. Franchement, je vis tous les jours. Moi,
c'est là qu'on voit les limites de
l'appareil. C'est le contraire.
Justement, et moi, ce sera la dernière question là, sur ce petit débat sur la démocratie. Est-ce que vous ne croyez pas, les uns ou les autres, que l'ostracisation de Georges Frêche ne serait pas une excellente opportunité pour Aubry et le PS national de se refaire une virginité en vue de 2012 ? Georges Frêche ne serait-il pas le con de l'histoire ?
Le con qui cimente le groupe.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ou je serais presque du délibéré. Tant pis pour le PS, on perd la région, on s'en fout. Ça cimente, et du coup, pour 2012, etc., Aubry devient crédible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce ne serait pas carrément du délibéré sur cette affaire-là ? Et Frêche, malgré lui, serait le compte d'histoire.
Oui, pour 2012, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que Martine Aubry, donc. A fait par rapport à la Fédération d'Hérault et à toute la région, Languedoc-Roussillon, Je crois qu'il y a, alors ça faut le rappeler parce que c'est extrêmement important, on parlait à l'instant de démocratie, mais la démocratie ça va toujours avec la justice. Et aujourd'hui, dans la région, ce sont des valeurs importantes, le sentiment qui prédomine c'est l'injustice.
Donc il n'y a jamais eu de démocratie en France alors ?
Si.
Mais parce qu'il y a aujourd'hui, démocratie ça va avec justice ?
Oui, il faut pas, non je pense qu'il y a quand même une justice.
Le petit historien que je suis n'a pas souvenir qu'il y ait une corrélation entre les deux.
Mais on avait quand même obtenu la retraite à 60 ans hein.
Ah non, mais justice, c'est pas ça, la justice.
Non, mais si, c'est ça aussi. Parce qu'on est en France. En France, il y a quand même des valeurs et des éléments qui touchent non seulement aux droits de l'homme, mais aussi aux droits de justice et à l'égalité qui ont été conquis. On ne peut pas dire en France, il n'y a rien qui s'est fait en ce qui concerne la justice.
Oui, alors donc quand j'entends
un socialiste qui parle de justice, aussitôt je vois le parquet, le tribunal, je vois les colonnes, je vois le juge, le procureur, machin, je me vois tout de suite en garde à vue.
Le renard, je vais vous dire à ce qu'il dit, puisqu'il me pose la question. C'est que la justice, c'est un joli mot, c'est un très joli mot. Maintenant, la justice, ça dépend qui c'est qui la prononce, ce mot. Parce que si je prends par exemple la justice de Sarkozy, c'est la justice du mérite. Et lorsqu'il parle de la justice, il parle de justice du mérite. Et il oublie là-dessus ce qu'il appelle, lui, la négation de l'assistanat, c'est-à-dire... Il oublie complètement la solidarité. Alors si la justice de Sarkozy, c'est l'absence de solidarité, ce n'est plus de la justice à mes yeux. C'est un exemple, par exemple.
Alors moi, je percevais de la justice au sens...
D'aborder le mot justice.
Moi je l'abordais au sens de la justice en général, pas au sens de la justice forcément du juge judiciaire. Hein, et judiciaire, c'est vraiment au sens très général du terme. C'est-à-dire, il y a des fois, il y a parfois des éléments qui sont injustes et d'autres qui sont justes. Et là, je l'abordais dans ce sens-là. Donc le mot de justice, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qui prévaut ici... chez bon nombre de militants hein, qui sont au Parti Socialiste, c'est l'injustice, c'est-à-dire de quel droit, donc on vient nous dire aujourd'hui, par exemple, on a parlé de la phrase tout à l'heure de Barthelone et de Montebourg qui dit « mieux vaut perdre une région que perdre son âme », mais j'ai
ça, c'est repris de Michel Noir en 86.
C'est repris certainement.
À propos de Lyon, « mieux vaut perdre une élection que de perdre son âme ».
Et non, donc, je pense qu'ils sont.
Ça vient de la droite, ça.
Ça vient de la droite, mais je pense qu'ils sont totalement alors irresponsables et injustes. Irresponsables et injustes aujourd'hui, je dis. Car je pense qu'ils sont.
Ceux
complètement...
qui disent ce genre de phrases, en général, ils finissent en justice.
Non, mais je.
Comme Michel Bois, de Carignan.
Je peux vous dire aujourd'hui que c'est totalement incompréhensible. Ils ont une méconnaissance du terrain, mais qui est incroyable. C'est-à-dire, on ne peut pas dire des choses pareilles aujourd'hui aux militants que nous sommes tous. Et bon, moi, ça fait quelques années que je milite, je ne suis pas le seul, il y a plein de militants. Il y a des gens qui sont là depuis 1977, qui se sont investis. Qui
vont. On n'a pas marre de militer pour rien.
Non, mais on milite pour quelque chose. Regardez à Montpellier, il y a quand même...
Pour donner le pouvoir aux autres.
Je voudrais juste...
Et quand même, tu voudrais bien avoir un peu de pouvoir, non ?
Être élu, non, mais je crois que c'est intéressant. Non, moi, je vois... Alors, attendez, juste...
Regarde, Bernard, il a bien voulu être maire de Villeneuve.
À l'action politique, moi, je prends du plaisir. Je vais vous dire à faire quelque chose de particulier, c'est à faire des propositions positives et quand les propositions sont reprises et sont appliquées. Et je trouve que ça, c'est tout à fait agréable.
En complément de ce que vient de dire Manu, je voudrais redire une chose qui, moi, m'agace profondément, et c'est des retours que j'ai dans ma section. Je voudrais, une bonne fois pour toutes, que l'on arrête de dire que dans le Languedoc-Roussillon, on est tous des militants obligés et inféodés à Georges Frêche ou à nos secrétaires fédéraux. Et ça c'est devenu insupportable.
Secrétaires fédéraux, en l'occurrence, Robert Navarro.
Nos secrétaires fédéraux, en l'occurrence, pour l'Hérault, c'est pour l'Hérault Robert, mais c'est vrai pour les autres départements. Et c'est devenu insupportable pour l'ensemble des militants de nous faire passer pour des obligés décérébrés qui votent au canon pour Georges Frêche. Voilà.
Ouais, on se demande vraiment, mais qu'est-ce qu'il fait ce Georges ? Mais c'est pas possible pour énerver tout le monde comme on va se refaire un petit coup de Olivia Ruiz manière pour passer au troisième débat, le débat des amis. On va voir avec qui vous pouvez vous allier éventuellement au deuxième tour. Allez, roule pour la technique. Allez, un petit coup de propagande fraîchienne.
«
Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge.
Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne le bipe.
Oh là là, oui, ses yeux de braise et sa petite fossette au menton. Je n'endors plus, j'en deviens niaise. Oui, je fonds en pamoison, je soupire son nom.
Et elle achète des tas de revues pour y découper ses photos. Sur tous nos murs, l'aile détendue, on voit sourire le beau cabot.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge.
C'était Clark Gable, autant n'emporterait le vent. Mais je dois me farcir sa belle gueule de Don Juan toute la journée sur mon écran.
C'est quand même mieux que ton football. Occupe-toi, lis ou bien picole.
Mais si je bois, je réponds plus de moi. Je suis pas plus ménage à trois.
On est toujours sur Divergence, donc c'était l'hymne à la gloire de Georges. Et bien je voudrais là qu'on passe au troisième débat, là, celui que j'ai appelé le débat des amis. Ah, il y a un problème quand même avec Hélène Mandroux. Et là, c'est un petit clin d'œil, un juste retour de bâton au niveau de la parité. Parce que la parité, enfin perso, j'ai jamais été franchement complètement pour. J'avais un peu les mêmes idées qu'Elisabeth Badinter là-dessus. Ça me semblait une grosse connerie. Et là, Hélène Mandroux, elle a un problème. Elle a un problème, c'est pour trouver des mecs sur sa liste. Parce qu'au net, elle en a pléthore. Mais elle a du mal à trouver des mecs. Hein, que des femmes. Alors, est-ce qu'on peut faire une liste crédible avec que des femmes qu'on a pris quand même parce que bah, elles n'avaient pas été prises nulle part ailleurs. Et puis avec les mecs qui restent, alors cela, on ne sait plus où on va aller chercher. Alors, aux yeux des militants et puis des électeurs que vous êtes, je ne sais pas, vous en dites quoi. Alors, la parité, ça vous plaît toujours, ça? Vous êtes toujours pour la discrimination positive?
La parité, aucun problème, c'est un argument qu'il faut conserver. Mais moi, je reviendrai sur la démocratie interne. Il faut savoir qu'Andrieux a été candidat. Andrieux a joué le jeu de la démocratie interne. Et Andrieux a intégré la liste de Georges Fraisse et de ses colistiers. Il ne remet pas en question du tout la décision des militants. Il aurait pu,
ça,
ou alors j'ai pas l'info.
J'étais à midi à la réunion de campagne avec Georges Fraisse. Eh bien, il y avait Eric, il y avait tous les principaux dirigeants de toutes les tous les départements, des femmes et des hommes. Et Éric Andrieux est là.
Éric Andrieux a fait sa campagne. Il aurait pu, je pense qu'il a été contacté. Il a été contacté par la liste Mandroux. Il aurait pu rallier la liste de Mandroux. Il ne l'a pas fait. On doit nous être sur la ligne de d'Éric Andrieux. On doit rester sur la démocratie interne du parti. Et rester en l'état pour que la région reste à gauche. Si Fraisse était raciste, je ne serais pas là déjà. Je ne serais pas là parce que je suis pas là pour cautionner qui que ce soit. Et on dit souvent que je suis issu de la diversité ou de je ne sais quoi. Même si je suis.
Tu serais la Rachida du coin. Hein.
Non, j'espère pas.
Pour revenir,
non, je ne suis pas magistrat.
Pour revenir,
je suis pas magistrat.
Et par rapport à ce que tu viens de dire concernant la parité, concernant la liste de Mandroux, dis-toi une chose, quand Fraisse veut couper les couilles de tout le monde, c'est normal que les mecs n'y aillent pas.
Oui, aussi.
Salut Serge.
Donc pour revenir à la diversité, moi j'oublie pas que la région est restée 18 ans à droite et que le dernier mandat de la droite de 98 à 2004, c'était une liste UMP dont dont Couder faisait partie, Front National. Moi, ce que je garderai des élections de 2004, c'est que quand même Frèche et ses colistiers ont fait sortir la droite et le Front National du Conseil Régional. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Je trouve que la radio, votre radio, chef, là, elle est quand même, dans le fond, mine de rien, vous faites semblant de soutenir Frèche, mais vous défendez Couder quelque part.
Alors, ça, c'est le renard, il a eu la carte de l'UMP, je ne sais pas, lui. Hier.
Depuis deux jours, là, c'est.
Je vais vous dire pourquoi je ressens ça. Parce que, quand même, regardez ce qui se passe. Couder, à l'échelle de l'Europe et de la France et de la région, peut-être même à l'échelle de Béziers, il a aucune chance d'apparaître comme quelqu'un susceptible de prendre la région. S'il a une chance, c'est à cause de la division. Qui se met en place. Mais que vous ne parliez pas que le président Sarkozy, il n'est même pas venu à Béziers, peut-être qu'il viendra, mais il tourne autour, que Xavier Bertrand, le patron de l'UMP, il a fait une interview dans Midi Libre, il a parlé, il n'a pas cité le nom de Raymond Couder, il a cité le nom d'un dirigeant de l'UMP.
Je confirme Jean-Claude Guessois, presque une petite.
De l'UMP de Perpignan, comment
Jean
il s'appelle
Castex. Jean Castex.
Voilà.
C'est son poulain.
J'en sais rien,
c'est l'ancien directeur cabinet.
Je suis contre les écuries en politique, alors j'en sais rien. Mais que vous ne disiez rien là-dessus. Et que vous, dans le fond, vous montez une émission pour montrer.
Nous sommes objectifs.
Non, mais franchement, mais faites une émission où vous nous mettrez en face de ceux qui risquent de prendre la région.
Alors ça, Jean-Claude Guessot nous met au défi de la chose. Eh bien, on lance le défi. Jean-Claude Guessot, le 1er mars. Lundi, 1er mars.
Moi, je suis prêt.
Face à Raymond Couder. Une heure et demie sur ce coup-là. Oui. Et nous, on lance le truc, nous, on va boire un verre après, puis on vous laisse tous les deux. Oui. Et puis après, on ramasse ce qui reste à la fin de l'émission.
Contre les points.
Jean-Claude Guessot, lundi 1er mars, 18h30, 20h, face à Raymond Couder, c'est bon ?
Je vais vérifier, mais si bon. Si
ben non, c'est bon ou c'est pas bon ?
Oui, c'est bon.
Bon, alors il faudrait savoir.
C'est dit en direct.
C'est dit en direct.
Non, alors, moi, attends, une chose.
Donc lundi 1er mars, demain matin, je téléphone à Raymond Couder.
Ce jour-là, il peut pas. Non, je rigole.
Ah bon, j'allais rigoler. Eh bien, sinon, il fera comme Jean-Claude Guessot, il annule un meeting. Jean-Claude Guessot a bien annulé des victoires de la musique en direct sur France 3. Il aurait pu draguer Marie Drucker, enfin, etc., etc.
Moi, je suis prêt.
Tiens, juste un mot pour Guessot, justement.
Alors, on le dit pour nos auditeurs. Hein, lundi 1er mars, quoi qu'il en soit, c'est Jean-Claude Guessot. Et en face de lui, Raymond Couder. Ou sinon. Moins,
Castex.
Ou personne. Auquel cas, tu seras tout seul. Mais,
Xavier Bertrand, si tu veux.
Ah ben,
Jean-Claude.
Sarko. Mais Sarko, il ne veut pas. Il ne veut pas dépendre de quoi.
Alors, attention, justement, à propos de Sarko. Et là, on arrive au terme. On arrive au terme parce qu'à 55, on sera obligé d'arrêter l'émission parce qu'il y a une émission ensuite qui doit prendre le relais. Je voudrais que vous me donniez un petit peu votre point de vue. Est-ce que vous ne pensez pas que Frèche va attirer à lui l'essentiel du vote protestataire et déshabiller aussi bien les Verts que le Front de Gauche, voire le vote FN, et j'ai même entendu en ville ces derniers jours que certains électeurs de droite, mais qui s'affichent, mais franchement de droite, sarkozyens à 200%, s'apprêteraient à voter Frèche au premier tour, bon, même si au deuxième tour, ils pourraient voter autrement, et en l'occurrence, vous savez, c'est des gens, vous les connaissez sur Divergence, qui sont du côté des banlieues, un peu huppées, du nord, du côté là où il y a un lien qui passe, vous savez, du côté de Chironi-Revol, là, voilà. On ne donnera pas de nom, hein, parce que nous, on ne donne pas de nom.
On donne
jamais de nom. Vous savez, des immigrés d'Amérique du Central.
Avec une casquette.
Avec une casquette, oui, qui parfois la mettent à l'envers. Enfin, on ne donnera pas de nom. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce coup-là ?
Oui, je crois que c'est vrai. Je crois que je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté et sur ce qui est ressenti actuellement. C'est cette injustice hein, quand on nous attaque un peu de toutes parts. Et je peux vous dire une petite anecdote. La semaine dernière, j'ai rencontré deux chefs de service hospitaliers au CHU de Montpellier qui ne sont pas réputés pour être des gens qui ont adhéré ni au Parti Socialiste ni au Parti Communiste, qui votent à chaque élection pour l'UMP, et qui m'ont dit, tu diras à Georges bah, que...
C'est le propre des médecins, ça, oui.
tu diras à Georges eh bien, qu'il aura notre voix aux deux tours, premier et deuxième tour.
Bon, et alors moi j'aimerais avoir l'avis d'Ali sur une dernière chose.
Sur une dernière chose, parce que largement la Coderre.
Dans, oui, ça dans 30 secondes, c'est fini. Ah. Et alors, étant donné que Abdi représente en quelque sorte quand même Philippe Sorel, quel avenir pour Mandrou à la mairie de Montpellier au lendemain des régionales ? Est-ce que Philippe Sorel, enfin, sera maire de Montpellier ?
Je ne peux pas répondre à cette question. De toute façon, Sorel travaille pour l'intérêt général. Il est actuellement adjoint à l'urbanisme.
Pas langue de bois.
Non, pas,
c'est fini ça.
Mon ami Sorel, c'est pas, un joueur de poker.
Non, justement.
Moi, je ne réponds pas à ta place. Hein.
Non, mais justement.
Il a le flop, mais il ne connaît pas. Ni le tour de.
Justement, ce matin, dans la presse, il disait que la présidence de la région, ce n'est pas une partie de belote. Ce n'est pas un coup les verts, un coup les socialistes.
L'avenir de Mandrou, c'est sérieux. La mairie de Montpellier, c'est les électeurs qui vont le décider. Oui. C'est
exactement.
Personne d'autre que les électeurs.
Oui, franchement, bon, moi, je vous dis ça, je vous regarde, mes amis socialistes.
C'est un bosseur, tout
mes amis bon. Socialistes, mais vous devez, plutôt que de vous entre-déchirer, ce qui est le cas aujourd'hui à Montpellier et ailleurs, réfléchissez à qui demain. Parce que ce soit Hélène, que ce soit Vézinier, même que ce soit Georges, enfin, réfléchissez dans 5 ans, dans 10 ans, comment vous faites. Et vous êtes en train de vous déchirer pour des affaires, des rendez-vous de tendance et tout ça. Mais enfin, réfléchissez. Demain, il faut que ce soit la gauche à Montpellier, que ce soit la gauche à la région, que ce soit la gauche dans le département. Voilà.
Et quand on entend le loup et le renard chanter, c'est que ça sent la fin de l'émission. Alors, divergence et divergent. Eh bien, là, pendant 15 jours, on s'éclipse, on prend des vacances. Et pourquoi on prend des vacances ? Parce qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser aux politiques le temps d'enfin avoir des listes, avoir des programmes. On se retrouve donc le 1er mars à 18h30 avec Jean-Claude Guesso, encore une fois, ça c'est sûr, et Raymond Coudert. Donc on le verra, et pour le 8 mars. Il nous l'a promis. Coudert, on verra. Mais vous regarderez sur le site internet, on vous en tiendra au courant. Et la semaine d'après, il me l'a promis, c'est Georges Frêche qui sera dans nos studios, donc le 8 mars, à la veille du
premier tour. Cherche champion.
Voilà. Et donc, d'ici là, lisez bien la presse et surtout, achetez Marianne de cette semaine qui fait un très bon compte-rendu sur la chose. Regardez le site internet Arrêt sur Image qui fait aussi un beau commentaire sur cette affaire-là. Et
la radio, il faut augmenter la puissance, il faut qu'elle soit nationale.
Et il faut augmenter la puissance, qu'elle soit nationale. Dit Jean-Claude Guesso, de toute façon, à partir du 1er mars, Divergence se diffuse en même temps avec RPH, Radio Pays d'Hérault. Et donc Divergence sera diffusée avec Radio Pays d'Hérault sur la totalité du département. Donc le département, après la région, après la France, après l'Europe, enfin,
et
on devrait émettre depuis New York d'ici 15 jours ou 3 semaines.
Allô la Lune.
Allô la Lune. Divergentes et divergents, bien le bonsoir et à très bientôt au lendemain des vacances. Allô.